Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. En Ituri, 32 trésors artisanaux ont été enlevés hier par des miliciens de la Codeco dans le site minier de Blanquette. Deux d'entre eux ont réussi à s'échapper. La communauté Niali dénonce ce qu'elle considère comme un défi à l'état de siège où ces miliciens sont appelés à déposer les armes. Une centaine de maisons endommagées et l'écroulement du pont Lukulchuru, bilan d'une pluie diluvienne qui s'est abattue le week-end dernier sur la commune rurale de Kalima dans le territoire de Pangiomaniema. La société civile locale appelle au secours. Notre invitée, c'est la sous-secrétaire d'État américaine adjointe au Bureau des Affaires africaines en mission à Kinshasa. Madame Amy Holman affirme que Washington offre un nouveau mode de coopération à la RDC qui passe par la lutte contre la corruption. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir sur la situation du carburant dans la ville de Kinshasa. Plusieurs stations-services n'ont pas vendu ce mardi, d'après le constat fait par notre équipe de reportage. Les agents commis à la vente parlent de rupture de stock. Là où on pouvait en trouver, il y avait des files interminables de véhicules. De son côté, Sep Congo, la société de stockage qui ravitaille ces stations service a, dans un communiqué samedi dernier, affirmé qu'elle dispose d'un stock suffisant de carburant, mais qu'elle a un problème logistique face à la hausse de la demande. Sep Congo ajoute qu'elle travaille en augmentant les rotations de ses véhicules, même de nuit, et que la situation sera réglée dans un bref délai. En Ituri, 32 trésors artisanaux ont été enlevés hier par des miliciens de la Codeco dans le site minier de Blanquette. Les assaillants les ont surpris en pleine activité. Selon des sources locales, deux d'entre eux ont réussi à s'échapper. Le président de la communauté Niali dénonce cet incident qui, selon lui, sonne comme un défi à l'état de siège où ces miliciens sont appelés à déposer les armes. On l'écoute, Vital Tungulo.
Les exploitants miniers artisanaux ont été surpris par l'incursion de Codeco vers 4h du matin. Nous condamnons avec la dernière énergie cet activisme. Ces miliciens, comme ils sont endoctrinés, ils n'écoutent personne. Et nous avons plusieurs initiatives de Kinshasa pour sensibiliser ces gens-là. Il y a la task force, il y a même PDDRC qui très récemment a lancé des messages pour que ces gens emboîtent ou bien empruntent cette voie de pacification, mais il n'y a rien. Au niveau des autorités, tout ce que nous sommes en train de leur demander, c'est de frapper ces gens-là. Dès qu'ils auront senti la puissance du feu, ils pourront peut-être se rendre. Sinon, on va continuer à vivre un cycle infernal de la violence, des kidnappings, d'esclavage. Et plusieurs, je vous informe qu'il y a plusieurs autres otages, femmes qui sont vers ces côtés-là, qui sont utilisées comme des objets sexuels ou bien esclavage, esclaves sexuels.
Notez que 13 groupements sur les 15 que comptent ces secteurs sont menacés par ces rebelles. Nous n'avons pas encore réussi à avoir la réaction des FRDC à ces sujets. Ituri, encore, des militaires ougandais ont été aperçus samedi dernier à Bourassi, localité de la chefferie de Mitego dans les territoires du Rumu. Les FRDC confirment la nouvelle et demandent à la population de coopérer étroitement avec ces soldats ougandais venus dans le cadre de la mutualisation des efforts avec les FRDC pour combattre les groupes armés dont les rebelles ougandais de l'IDF. D'autres précisions avec vous, Martial Kizabiamungu.
C'est dans la mi-journée de samedi 29 janvier dernier que des centaines d'éléments de l'armée ougandaise ont traversé la rivière Sebiliki sur des barques fabriquées par eux-mêmes en direction de Bourassi, chef-lieu de la chefferie de Mitego, en Ituri. Cette information est-elle confirmée par les FRDC? Plusieurs sources sur place affirment avoir vu ces militaires s'installer à Bourassi avec des engins de réfection des routes et un armement de guerre important. Selon des autorités locales, d'autres éléments du UPDF se sont dirigée vers Kiaboye, dans la plaine de Semouliki, vers Bouga. Les autorités locales et forces vives s'allient l'intervention de l'armée ougandaise aux côtés de FARDC qui, selon elle, va contribuer à imposer la paix dans cette partie de l'Ituri. Ce matin, ici à Bounia, les porte-parole de l'armée à l'Ituri indiquent que la réussite de ces opérations conjointes dépendra de l'implication de la population qui, selon lui, doit faire preuve d'esprit patriotique à dénonçant les suspects aux forces de sécurité. Le lieutenant Gilles Ngongo.
La population doit s'approprier de cette mutualisation de forces pour traquer, neutraliser, détruire méchamment les ADF qui constituent notre ennemi commun entre les deux pays. Parce que c'est leur intérêt.
Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Le secrétaire général du RCD-KML plaide pour la tenue d'un procès public des présumés rebelles ougandais LDF et leurs collaborateurs qui ont été arrêtés récemment dans la région de Beni, parmi lesquels Salim Rachid Mohamed. Le député national Kiro Tsongo demande aux habitants de la zone d'éviter toute distraction en cette période. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
Depuis des années, c'est quand même la première fois que des responsables EDF sont arrêtés. C'est la preuve que la mutualisation des forces entre les armées congolaises et ougandaises donne des résultats, même si les massacres n'ont pas encore pris fin. L'espoir est donc permis et je réitère ma demande à la population de continuer à soutenir cette mutualisation. Ne soyons pas distraits et restons focus sur les opérations militaires, car le retour de la paix dépend aussi de notre attitude. Ceci dit, il ne suffit pas d'arrêter les terroristes. Il faut aussi les juger publiquement pour que nous ayons une meilleure compréhension de la nébuleuse EDF, des circuits de ravitaillement et des complicités dont ils peuvent bénéficier. Voilà pourquoi je réitère une demande que j'ai déjà formulée au chef de l'État, celle de voir organiser des procès de tous ces terroristes dont certains sont en main de service depuis plusieurs années déjà. Tous les complices, civils et militaires, comme ceux qui avaient été surpris en flagrant délit de ravitaillement des EDF en munitions en compagnie de quelques agents de l'ICCN il y a plus de 10 mois, doivent être jugés. Dans le même ordre d'idées, la justice militaire doit faire toute la lumière sur les effets militaires découverts dans un conteneur de marchandises à Boutembo il y a déjà quelques semaines.
Nord Kivu encore, ce mardi, c'est la deuxième journée consécutive sans taxi à Goma. Des acteurs de la société civile locale et des mouvements citoyens affirment que cet arrêt du trafic a des conséquences néfastes sur les trains de vie des habitants de la ville. Reportage à Goma de Gabriel Ouamenia.
Sur les aires des grands arrêts des taxibus situés de part et d'autre de la grande artère qui sépare les deux communes de la ville, aucun taxibus n'a été visible encore ce mardi matin. Tous les voyageurs, fonctionnaires, élèves, étudiants, marchands qui attendaient désespérément les transports ont dû rebrousser chemin pour les uns, alors que les plus courageux se sont hissés dans des camions bennes ou des engins communément appelés trois pneus partant dans leur direction. Le motard qui reste seul le maître des terrains ont doublé, voire triplé les prix de la course par moto, comme le témoigne cet habitant que nous avons joint depuis l'arrêt communément appelé Terminus.
Vous allez constater que la plupart des élèves ne partent plus à l'école. Les étudiants restent à la maison. La plupart des mamans qui se frappent de leurs activités à Birere, tellement chose à dire qu'en ville, nous payons 1000 francs à 1500. Mais à cette heure, c'est 5000 francs.
Contacté, le maire de Goma s'est dit ouvert au dialogue avec les propriétaires des taxis pour qu'un compromis soit rapidement trouvé. Le commissaire supérieur principal, Kabeya Makosa François, affirme qu'il n'y est pour rien dans cette décision. Il dit appliquer la loi en la matière, à l'instar d'autres provinces du pays. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Maniema où la commune rurale de Kalima dans les territoires de Pangui est coupée de Kindu, chef-lieu de la province, suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue sur cette entité le week-end dernier. Le bilan fait état d'une centaine de maisons endommagées et l'écroulement du pont Luturukulu. Le président de la société civile locale appelle au secours des autorités et des ONG de développement. L'abbé Diodoné Kapopo s'est confié à Florence Kizalunga.
Le bilan provisoire pour de maisons endommagées ou emportées s'élève à plus de 100 maisons. Et il y a aussi des pertes des effets de la maison liée consort. Les gens ont passé la nuit à la belle étoile et les familles d'accueil sont débordées depuis hier. Il y a aussi des infrastructures d'intérêt public qui ont été touchées. Par exemple, la route nationale numéro 32 qui relie Kindu à Shabunda dans le sud Kivu a été coupée. Le pont de Luturukulu a été coupé, endommagé complètement. Et c'est ce pont qui fait la charnière entre les secteurs de Beya et la commune de Kalima. Ce pont est d'intérêt très capital, puisque d'abord, c'est vers de l'autre côté que se trouve l'aéroport de Kalima. En plus de cela, les gens vont au champ, c'est de l'autre côté. Et puis, le produit des premières nécessités de denrées alimentaires viennent du secteur de Béa, spécialement sur la route de Lubile et sur la route de Pangui. Mais de l'autre côté aussi, il y a un autre grand caniveau qui nous relie à Kindu, de Kisula, où il y a eu aussi un autre pont qui a cédé aussi. Et donc, pratiquement, nous sommes coupés et de Kindu, de Chabunda, de Goma et de Bukavu avec ces incidents. Puis hier, pour traverser ces ponts, il a fallu que quelqu'un qui vient du champ paye 1000 francs pour traverser. Et donc, ça ajoute encore la difficulté de survie au niveau des Kalima.
Santé à présent. La lèpre reste actuellement un problème de santé primaire qui mérite l'attention de toutes les communautés du Tanganyika. C'est ce qu'affirme la ministre provinciale de ce secteur au lendemain de la journée mondiale de la lèpre. Dr Natacha Mulange Mpundu affirme qu'en 2021, cette province a dépisté 582 nouveaux cas de lèpre dans les territoires de Moba et de Kalemie. Ces propos ont été recueillis par François-Xavier Mibé.
Dans notre province, la lèpre est présente dans ces 6 territoires avec une forte notification des cas dans les territoires de Moba et de Kalemie. La province a ainsi dépisté 582 cas au total en 2021. Cela fait beaucoup de cas et nous ne devons pas rester les bras croisés. Seul le dépistage et les traitements précoces permettent de guérir la lèpre, de stopper la contamination et d'éviter les infirmités. La lèpre est dépistée et traitée gratuitement dans tous les centres de santé de la province. La lèpre n'est pas une maladie honteuse, ni une malédiction et encore moins un mauvais sort. Un malade de lèpre peut mener une vie normale.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, nous sommes le 1er février, cela fait 5 ans qu'Étienne Tshisekedi wa Mulumba est décédé. Une cérémonie commémorative a eu lieu aujourd'hui au mausolée érigé en sa mémoire dans la commune de Lancélé. Elle était organisée par la maison civile du chef de l'État. Le président de la République a à cet effet dévoilé la statue d'Étienne Tshisekedi, son père et leader historique de l'UDPS. Mais qu'est-ce que l'homme politique congolais et la population en général peuvent retenir de son idéologie? C'est notamment la constance, répond directement Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et analyste politique. Il a été joint par Babel Mpongo Masimango.
Je pense que la première des choses serait la constance, c'est-à-dire lorsque l'on est engagé dans un parti politique, de rester constant par rapport à ses engagements. Quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment une constance au niveau des engagements de la classe politique congolaise. Ce qui fait que tout devient volatile et tout devient difficile de pouvoir avoir une constance et plus d'avoir une vision claire par rapport à un projet politique. Lorsqu'on regarde la constance de Étienne Tshisekedi, on la compare avec les politiciens d'aujourd'hui. Vous vous en conviendrez, il n'y a vraiment pas comparaison. Hier, vous avez été FCC et aujourd'hui, vous êtes Union Sacrée et c'est tout à fait normal pour la classe politique actuelle. Alors que lorsque l'on regarde le parcours de Étienne Tshisekedi, on n'a pas effectivement cette tergiversation. Cette constance-là, à mon avis, est une stabilité et qui peut permettre justement de construire un État véritablement démocratique. Quand on regarde effectivement la base, il y a vraiment pas d'idéologie, le seul critère qui compte, c'est de pouvoir, entre guillemets, participer au pouvoir, pour pouvoir récolter des dividendes, pour pouvoir les distribuer, non pas pour l'État, mais dans un cercle qu'on appelle la tribu, le clan.
Actualité internationale.
La situation est très confuse ce mardi en Guinée-Bissau. Des tirs ont été signalés au centre-ville autour de la primature où s'est tenu un conseil de ministres extraordinaire. Des détonations ont provoqué la panique généralisée. La CDAO condamne une tentative de coup d'État. Le conseil de ministres s'est tout de suite interrompu. Depuis que la nouvelle s'est répandue, c'est la débandade. Les écoles ont été fermées. Des mouvements de militaires ont été constatés dans la ville. Pour l'instant, on ne connaît pas les intentions des assaillants. La Norvège a annoncé ce mardi matin qu'elle renonçait à l'envoi d'un contingent militaire qui devait intégrer la force européenne anti-djihadiste dans le pays. Et ce, faute d'un accord avec la junte actuellement au pouvoir en pleine brouille avec les Européens. Le ministre norvégien de la Défense nationale a dit au Parlement ce matin qu'il n'a pas été possible d'établir un cadre juridique sérieux avec le Mali pour cette mission.
L'invité.
Notre invitée, c'est la sous-secrétaire d'État américaine adjointe au Bureau des Affaires africaines en mission ici à Kinshasa depuis jeudi dernier. Madame Amy Holman affirme que les États-Unis d'Amérique offrent un nouveau mode de coopération à la RDC et qui passe par la lutte contre la corruption et s'entretient avec Kéline Kouté.
Amy Holman, bonjour.
Bonjour, madame.
C'est depuis jeudi soir que vous séjournez en RDC. Vous n'êtes pas venue seule, vous êtes en délégation.
Oui.
On peut savoir quelle est la raison de votre visite en République démocratique du Congo.
Ok, je suis ravie d'être ici. Alors, c'est ma première visite en Afrique centrale. Alors, je suis le vice-ministre adjoint responsable des affaires Centrafrique et je suis ravie d'être ici comme Kinshasa comme première étape. Alors, je faisais partie d'une délégation qui a été envoyée par le président Biden suite aux entretiens entre nos deux présidents, G20 à Rome et puis à la COP contre le réchauffement climatique à Glasgow. Alors, les deux présidents veulent entendre une vision partagée de la démocratie, que la démocratie devrait livrer des résultats à ses populations. Alors, on est venu à propos de la mise en œuvre de cette vision partagée. Alors, les membres de la délégation sont le conseiller adjoint des affaires de sécurité nationale des États-Unis, M. Dalip Singh, et puis la directrice principale sur l'Afrique du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, soit c'est la Maison-Blanche en fait, et puis moi en tant que représentant du département d'État. Alors nous avons eu des conversations avec Monsieur le Président et la plupart des membres du cabinet à propos d'un programme qu'on s'appelle Construire un monde meilleur, soit Build Back Better World, ou bien B3W, dont il y a plusieurs volets, le genre, la numérique, l'éducation et la santé et la lutte contre le réchauffement climatique. On est en train d'élaborer ce programme. Alors, c'est le troisième pays dont M. Dalip Singh a visité. Alors, c'était la RDC après le Sénégal et le Ghana. Et puis, on est en train d'envisager un programme et puis possiblement de réunir des fonds pour des projets ici à la RDC.
Le samedi dernier, lors de la conférence animée par le conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, il a affirmé que votre pays propose un nouveau mode de coopération à la RDC pour lui permettre de profiter de son potentiel et de se développer concrètement. Quel est ce nouveau mode de coopération que vous proposez à la RDC?
Alors, nous avons déjà entamé un partenariat avec la RDC qui est enfoqué sur la prospérité, le paix et la protection de l'environnement. C'est un autre qu'on avait ajouté. Alors, ça fait déjà plus d'un an, alors dès que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, que nous sommes en train d'élaborer ce programme pour donner des bénéfices concrets au peuple congolais. Alors, le président Biden a été impressionné par les efforts du président Tshisekedi et cette vision a partagé. Alors, on était en train d'élaborer ce programme de partenariat.
Est-ce qu'il y a des préalables pour implanter ce nouveau mode de coopération?
Oui et non. Alors le oui, c'est en suivant de très près les engagements que la RDC a pris lors du sommet de la démocratie au mois de novembre. Alors deux engagements pour nous sont vraiment très importants. C'est celui des élections, de les avoir de manière crédible, transparente et aux dates prévues. Alors pour nous, c'est très important. Et surtout pour concrétiser des projets et notre vision d'attirer des investisseurs ici, non seulement dans le secteur minier, mais tel que le secteur numérique et des autres secteurs. Alors, le président Tshisekedi nous a mentionné l'importance de l'agriculture à l'économie congolaise, ce que nous reconnaissons. Alors, c'est la lutte contre la corruption et c'est les changements dans le régime fiscal. Alors maintenant, il y a à peu près 300 taxes qui sont imposées sur les entreprises. Alors, ça, c'est beaucoup trop. Alors, c'est trop difficile pour les entreprises étrangères qui veulent venir ici et créer un modèle différent pour donner des bénéfices au peuple congolais. Alors, c'est-à-dire des emplois, former des cadres, créer une infrastructure sociale, que ce soit donc par exemple pour les concessions minières, des écoles, des hôpitaux, tout ça. Alors c'est comme ça et de travailler dans un environnement sain, sans corruption. Alors c'est le modèle américain. On veut former des gens, on veut laisser des impacts positifs au pays. Mais c'est difficile lorsque il faut se contenter avec un régime fiscal qui est difficile à gérer et aussi lorsqu'il y a beaucoup de corruption pour avoir des licences et tout ça. Alors ça devrait changer. Et nous sommes très fiers de l'engagement que le président Tshisekedi a pris lors du sommet de la démocratie et c'est quelque chose qu'on fait suivre.
Alors par rapport à tous les secteurs que vous avez évoqués, ce partenariat commence quand concrètement?
Alors le partenariat que l'ambassade a sur le leadership de l'ambassadeur Hammer, ça a déjà commencé. Et puis le projet que nous sommes en train d'aiguiser dans cette visite, alors on va faire le suivi avec des équipes techniques dans un très proche avenir.
Qu'est-ce que la RDC doit faire pour s'engager sur la voie du développement?
Alors pour moi, alors ça fait plus de 20 ans que je travaille soit dans les pays en voie de développement, soit la politique envers les pays de développement, soit dans des différents pays, soit dans des différentes fonctions au sein du département d'État. Alors un des plus importants que reconnaît le président Tshisekedi, alors c'est la lutte contre la corruption. C'est la répartition équitable des bénéfices. C'est quelque chose dont tous les pays ont parfois des difficultés. Il y a des grandes différences de la distribution des richesses. Alors, l'éducation, c'est très important pour bien former des jeunes gens.
Merci beaucoup.
Non, c'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Capi, la sous-secrétaire d'État américaine adjointe au Bureau des Affaires africaines, Madame Ami Holman, qui séjourne à Kinshasa, a été interviewée par Kéline Kouté. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Cette édition d'information a été placée sous la supervision éditoriale de Pélékipé Lamondo, que je remercie infiniment. Retrouvez-le sur www.radiocapi.net.